l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, c'est Michel Collomb qui vous parle aujourd'hui et qui vous présente notre émission. Je vais d'abord vous parler de la deuxième semaine de la quinzaine des solidarités que nous abordons donc aujourd'hui, avec encore un certain nombre de manifestations, de débats, en particulier dès demain au Centre Rabelais à 18h30, une interrogation sur les systèmes alimentaires en danger, quelles opportunités pour la transition agroécologique. De toutes parts, les systèmes alimentaires sont questionnés dans l'urgence. Alors, dans ce contexte, l'agroécologie peut-elle constituer une alternative crédible? Voilà le thème du débat. Il sera animé par Patrice Burger, le président du CARI. Je rappelle que le CARI, c'est le Centre d'Action et de Réalisation Internationale qui travaille en particulier beaucoup avec l'Afrique. Mais aussi participeront Marc Dufumier, un ancien de AgroParis, agronome et enseignant-chercheur, et par Damien Conaré, qui est secrétaire général de la chaire UNESCO à l'Institut Agro de Montpellier. Donc ce sera une des manifestations importantes de notre deuxième semaine. Je rappelle ce qu'on définissait comme agroécologie. L'agroécologie, c'est Patrice Burger qui le dit, l'agroécologie vise à produire sans détruire. Et je rappellerai également cette définition du développement qu'avait donnée une ministre norvégienne, je crois, Madame Brundtland. Je cite, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, à leurs besoins ». Voilà. Donc, je vous invite à vous rendre si vous êtes intéressé par ce débat qui est tout à fait d'actualité puisqu'il touche à l'agriculture biologique, à la permaculture, à l'éco-agriculture, à l'agroforesterie, enfin tout un tas de domaines dont il est beaucoup question actuellement et auxquels il faut porter une certaine attention, même si on est à Montpellier, où des initiatives sont prises, en particulier le projet de généraliser le compostage à Montpellier dans les maisons disposant d'un jardin. Voilà. Il y aura également pour le dimanche 3 décembre, un débat autour des plantes alimentaires méditerranéennes. Alors, ça commencera par une conférence, une présentation, et puis ça se terminera par une dégustation de plantes alimentaires qui se trouvent dans nos anciens potagers, peut-être. Et tout ça se passera à Murviel-les-Montpellier, donc pas très loin de Montpellier, à 17h, salle Lamourou, Murviel-les-Montpellier. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine Achaud, qui est la responsable de l'association des Ivoiriennes et des Ivoiriens de Montpellier. Et je me réjouis de pouvoir parler avec elle de ce pays que je ne connais pas, mais j'ai des amis ivoiriens que j'aurais aimé pouvoir écouter cette émission avec nous. Voilà, bonjour Blandine.
Bonjour Michel, merci voilà. De m'avoir invité à ce lieu.
Mais je vous en prie, vous allez travailler en nous racontant un petit peu ce qui vous a amené à devenir la présidente de cette association et puis peut-être aussi les objectifs qu'elle envisage.
Alors, j'ai été élue par mon précédent qui m'a passé le relais, on va dire, Je ne connaissais pas du tout, on va dire, je ne savais pas où j'allais me mettre au niveau en tant que présidente, ce qui m'attendait. C'est une aventure qui est très riche parce qu'on fait beaucoup de rencontres et on œuvre et on aide beaucoup pour les autres. Oui. Et je pense que c'est cette richesse qui permet de maintenir, de tenir en tant que présidente de l'association. Ça fait 4 ans que je suis présidente et l'association existe depuis 20 ans.
Oui.
L'objectif de l'association, c'est promouvoir la culture ivoirienne. Comme vous dites, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'association, on met en avant la culture, tout ce qui est en lien avec la Côte d'Ivoire pour que les gens puissent voyager à travers nos thématiques.
Oui.
Et deuxièmement, on collabore avec des autres associations, on travaille avec d'autres associations. Notamment, je suis présidente de Yobi, donc c'est une fédération où il y a plusieurs associations qui se maintiennent.
Des associations africaines ou bien...
De tout horizon, pas forcément africaine. C'est, tout le monde est bienvenu, toute association est bienvenue. Et troisièmement, on aide, l'objectif c'est vraiment aider et accompagner les jeunes travailleurs, les réfugiés et les étudiants. Des personnes sympathisantes
de la Côte d'Ivoire.
Voilà.
Donc, ce n'est pas uniquement une association étudiante, c'est ouvert à tous les publics qui s'intéressent vraiment à la Côte d'Ivoire.
Cette association, l'objectif, c'est ouvrir à l'autre, pas forcément que les Ivoiriens entre eux, non, parce que sinon on ne grandit pas. L'objectif, c'est vraiment de voyager à travers tout ce que nous faisons. Nous, c'est un message qu'on veut faire passer. Mais l'objectif phare, c'est qu'on milite, on aide, on récolte des fonds pour les grandes associations, les grands brûlés qui se trouvent à Bassam de l'autre côté de la rive. C'est pour cela qu'on essaye vraiment de faire des événements pour pouvoir récolter des fonds, pour aider cette association qu'on a vraiment, vraiment besoin.
C'est une association que vous connaissiez, que vous avez choisie, ou bien c'est une association qui est très réputée en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous a amené à préparer, par exemple, la prochaine rencontre dont on va parler, au profit de cette association de Grand Brûlé?
Alors, en tant que présidente, quand je suis rentrée dans l'association, je me suis posé une première question. C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre?
Oui.
Voilà. Je cherchais les causes que j'aimerais bien faire. Parce qu'il y a beaucoup de causes que les autres connaissent, les cancers, tout ce qui est en lien avec le cancer.
Oui.
Voilà. Et je me suis dit non, il y a déjà plusieurs associations qui vont dans cette direction. Je souhaiterais avoir une autre association dans une autre direction.
Oui.
Et les brûlés, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est des phénomènes qui sont énormes, qui gâchent la vie de beaucoup de personnes. Parce que les brûlés, c'est pas un accident, c'est pas une maladie,
oui.
C'est un accident.
Oui.
Donc toute personne est appelée
à rencontrer ce genre de problème.
Oui. Donc je me suis dit, et cette dame, elle cherchait de l'autre côté aussi une association qui peut l'aider. Et donc nos deux idées se sont croisées.
Très bien.
Et on a échangé ensemble longuement. J'ai réfléchi, j'ai essayé de voir est-ce que c'est possible. Et là, j'ai trouvé qu'on allait dans la même direction. Et là, je me suis dit, oui, je vais travailler avec cette dame qui est de l'autre côté, qui milite au niveau parce qu'elle fait pas mal d'émissions, elle fait pas mal de télé. Cette dame a été touchée personnellement parce que c'est son fils qui a été touché. Et lorsqu'elle est partie à l'hôpital pour se faire soigner son fils, elle a vu la misère humaine des personnes qui ont été brûlées au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et c'est pour cela qu'elle s'est dit, ben non, il faut que je fasse quelque chose.
Ouais.
Voilà.
Moi, je me sens également très concerné par ce problème parce que j'ai connu au Burkina Faso un accident qui s'est passé, qui concernait des enfants qui jouaient ensemble à l'extérieur. Mais il y avait une installation pour faire rôtir ou pour faire griller des brochettes, etc. Et une petite fille qui a voulu attraper un ballon, qui a reculé, et elle s'est retrouvée tombant sur les
grilles. Hein.
Les grilles. Et alors, elle a été brûlée gravement et il a fallu évidemment l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Non, donc c'est vraiment un objectif tout à fait intéressant qu'il faut effectivement défendre et ça coûte probablement très cher en Côte d'Ivoire également. Donc, vos objectifs, c'est organiser des manifestations. Il y a combien d'Ivoiriens à peu près à Montpellier ou dans la région proche ?
Alors, à peu près 400 personnes ivoiriennes.
Oui, oui.
Beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants à Montpellier et pas mal de réfugiés aussi qui se mettent un peu à l'écart. L'objectif, c'est vraiment aller chercher cette population pour venir dans l'association.
Oui, d'accord. Voilà. Alors justement, vous préparez une manifestation, c'est pour très bientôt, puisque c'est pour
le 2 décembre.
Le 2 décembre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ça s'appelle « Un enfant, un sourire, le plaisir d'offrir ».
Alors, on est dans une période où tout est illuminé, c'est Noël.
Oui.
Et il y a des personnes qui n'ont pas la chance de retrouver leur famille.
Bien sûr.
En l'occurrence, les étudiants, les réfugiés, même les travailleurs qui viennent pour... je me suis dit, l'ancien président, il avait déjà annoncé, il avait déjà fait des manifestations et j'ai un petit peu ouvert à tout le monde. C'est vraiment l'occasion de se retrouver les uns les autres, de passer un moment de convivialité et de passer aussi un message pour dire qu'il y a des associations qui sont là pour aider ceux qui sont en difficulté. D'où je dis un enfant, un sourire, le plaisir d'offrir, parce que c'est le moment où on offre des petits cadeaux aux personnes qui sont présentes, en l'occurrence des enfants. Il y a un Père Noël, il y a des danses, il y a des chants, il y a des défilés de mode, il y a des stands autour pour pouvoir offrir, acheter des petits trucs pour que l'association puisse avoir des fonds. Donc voilà, c'est notre manière de partager quelque chose de précieux.
Très bien. Voilà. Alors, on va peut-être faire une pause musicale. Là, je vois que le moment est venu. Et on reparlera un peu de votre association, de vos objectifs tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Cette manifestation du 2 décembre, alors vous allez nous préciser un petit peu à la fois le lieu où ça se passe et la façon, comment ça va se dérouler.
Alors, le lieu, c'est la salle, lui...
Jacques Ier
d'Aragon,
oui, Jacques
qui est pas loin du Rive du Lez. Donc, c'est la ligne 1,
oui.
Descendre au Rive du Lez. Donc, la ligne 1, la 3, la 4, qui
oui,
a lieu...
Oui.
Qui est, c'est une place qui est très, très connue. C'est une salle qui est très connue. Il y a pas mal d'événements qui se font souvent là-bas.
Effectivement, donc, on a fait déjà un, nous-mêmes.
Voilà. Accessible facilement. Moi, je trouve que oui, c'est vraiment une très belle salle.
Alors, donc, on peut passer par en longeant la rive du Lez, hein, et puis donc sur la gauche, par rapport à la ligne de tramway. Et
oui,
puis ensuite, très rapidement, on pique un peu vers l'intérieur pour trouver la place où se trouve cette place. Mmh. Elle est à côté d'un restaurant, je crois.
Voilà, c'est voilà, ça, c'est ça.
Ça, oui.
Merci beaucoup. Donc, cet événement au programme, il y aura le discours, parce que le numéro phare, c'est qu'on a mis en avant la littérature.
Oui.
Voilà, les livres pour pouvoir amener les enfants à aimer, à toucher. Donc, il y a une personne qui viendra, une écrivaine qui sera présente, qui va présenter un petit peu ses livres. Et il y a une jeune étudiante qui souhaiterait raconter, faire un petit verset d'histoire pour que les enfants soient au tout. Il y aura des stands pour animation pour les enfants, pour que
oui,
les parents puissent se trouver vraiment pas avec les enfants entre
oui,
les gens, voilà
dans
un ouais, lieu d'accueil pour les enfants. Il y aura des défilés de mode, donc les stands, étant donné qu'il y a des stands de différents horizons, donc il n'y a pas que des stands ivoiriens, des stands sénégalais, il y a des stands ivoiriens, des stands camerounais, il y a des stands de tout pays, parce que je ne veux pas qu'on se sente que sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment, c'est comme on dit, c'est la période, c'est décembre, c'est la période
oui,
des cadeaux, donc
oui,
c'est l'occasion
c'est
de venir.
C'est une bonne idée, oui.
Voilà, c'est l'occasion de venir et de faire un petit cadeau, un geste pour
oui,
l'association et en même temps un geste pour son...
Alors,
son...
est-ce que la mode ivoirienne est plus accessible que la mode française?
La mode
en France
La mode ivoirienne, c'est la Côte d'Ivoire, on dit en général, le terme dit c'est Petit Paris. En gros,
ouais,
la Côte d'Ivoire est semblable à la France. On a à peu près équivalent au niveau habillement, voilà.
D'accord.
La Côte d'Ivoire est très connue, et très très connue des autres pays étrangers qui sont... c'est un pays à visiter parce que c'est vraiment très riche.
D'accord. Voilà. Et vous aviez des couturiers, par exemple, ici à proximité de Montpellier, qui proposaient des robes ou des habits ou des... Pour hommes ou pour femmes?
Oui, il y a des courtières, d'où le stand. Là,
hein? D'où ce stand?
Voilà.
Ah oui,
donc,
c'est important.
Voilà,
hein,
qui seront présents et avec différents. Il y a une couturière qui est Valentine, qui est très, très connue dans son milieu et qui
ouais,
fait des... avec Aïda. C'est mes deux,
deux
stands qui sont très, très phares, qui sont connus et qui font des merveilles au niveau artisanal.
Très
voilà,
bien. Très bien. Et donc, ça va se terminer vers quelle heure, ça?
Alors, ça commence à midi pour les stands.
Ah oui.
Et ça se termine à 22h.
Oula!
Oui, c'est une longue journée.
Une longue journée.
Très, très remplie. Donc, comme je le disais, il y a des performances littéraires, il y a des défilés de mode, il y a des performances artistiques de la danse traditionnelle de la Côte d'Ivoire, il y aura des distributions des cadeaux pour les enfants, et un repas payant pour aider l'association.
D'accord.
Qui est de 12 euros
D'accord.
le repas.
Ah oui, c'est un prix
raisonnable.
Modeste,
voilà.
Raisonnable.
Voilà.
Oui, oui, oui. Bon, très bien. Donc, on rappelle peut-être le lieu. Hein. Le lieu, c'est la salle Jacques Ier d'Aragon, qui se trouve...
Pas loin du Rive du Lez.
C'est pas loin de la Rive du Lez, après avoir traversé le pont, hein, quand même. Voilà. Donc, on peut y accéder par le tram.
Ligne 1, ligne 3 et ligne 4.
Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités de venir. Très bien.
Alors, ce sera vraiment, je tiens, le samedi 2 décembre. C'est très important que vous veniez découvrir la Côte d'Ivoire. Comme dire, mon hôte qui m'a gentiment invité en disant « Je ne connais pas du tout la Côte d'Ivoire, mais je vous invite à venir voir et de découvrir la Côte d'Ivoire à travers.
» Très volontiers qu'on le fera, oui. C'est très volontiers. Bon, on va peut-être encore échanger un petit peu sur... la situation des Ivoiriens en France. Par exemple, la question des réfugiés. Comment vous la voyez cette, est-ce qu'elle concerne les Ivoiriens d'abord? Quel type d'Ivoiriens sont concernés? Est-ce que ce sont des gens à diplôme ou bien au contraire des gens qui n'ont pas du tout de formation professionnelle? Comment vous voyez le problème, vous?
Alors, le problème, c'est que la plupart des... Avant, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'immigration en soi. La guerre a fait beaucoup de déplacements, appauvri certaines personnes, donc ils sont obligés de voyager pour pouvoir se survivre.
La guerre civile, donc.
Qui a fait vraiment... Je ne vais pas rentrer parce qu'une association, c'est apolitique. En tant que présidente, en tant que mère, en tant que femme... on rencontre des Ivoiriens qui se retrouvent vraiment en difficulté, difficulté des logements, la prise en charge. Et je pense que quand ils viennent de l'autre côté, ils ne s'entendent pas du tout à une dureté de la réalité, la prise en charge. Parce que un réfugié, comme vous le dites, quand il vient à l'étranger, il ne se rend pas compte, il n'y a plus la famille... ou une personne où on peut se retourner pour qu'il puisse aider. On est livré à soi-même. Je vous donne une petite histoire. Un jour, on m'a appelé pour un jeune. La mairie m'a appelé pour un jeune qui était passé par la Russie, parce que l'Ukraine, pardon. Il était parti en Ukraine. On est venu le chercher en tant que joueur footballeur. Et malheureusement, il y a eu la guerre. Donc, il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc, il s'est retrouvé à... revenir en Europe, donc la France, en l'occurrence à Montpellier. On m'a appelé pour venir le prendre en charge. Et lorsqu'il est arrivé, il devait commencer les papiers en tant que l'Ukrainien, mais la guerre est arrivée, donc les papiers ne sont pas faits. Donc il se retrouve entre deux bateaux. Il n'était pas venu en tant que réfugié, mais il est devenu réfugié.
Par la force des choses.
Par la force des choses. Et cet enfant... Montpellier ne pouvait pas le prendre parce qu'il n'est pas reconnu comme l'Ukrainien. Il est reconnu comme Ivoirien et titre réfugié. Donc, on a essayé de se battre pour qu'on puisse le prendre en compte. Hélas, ce jeune s'est tombé, la situation n'a pas pu, on n'a pas pu le régulariser. Il s'est retrouvé à repartir. Je vous raconte son histoire parce qu'elle est vraiment, ça me touche. Il s'est retrouvé à partir en Belgique. De là, il est retourné à Paris. Et en jouant au foot, parce qu'il était venu, c'était un professionnel. Et il a eu des problèmes cardiaques. Problèmes cardiaques, il est tombé dans le coma pendant plus de un mois. Actuellement, il a des séquelles d'un AVC.
Et j'imagine qu'il doit renoncer à sa carrière de footballeur.
Que la carrière, parce que...
Son idéal.
C'est autre chose, il ne peut plus... Il reconnaît même plus... il ne connaît même pas pourquoi il est là. Il se pose la question.
Ah bon?
Parce que les neurones sont touchés.
Suite à l'AVC.
À l'AVC. Donc, la question, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choix qu'on fait. Et malheureusement, il y a des choix
qu'on ne fait
pas. Ne fait pas. Donc, la plupart des personnes n'ont pas choisi d'être là. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Ça va à force des choses qui sont obligées de traverser des mers ou des couloirs ou des déserts pour venir trouver un petit bout, quelque chose à manger. Et ces personnes, je pense que si on leur donnait la possibilité de l'autre côté de leur pays, ils ne viendront pas en Europe. Parce que l'Europe, on donne une image de l'Europe, quelque chose de parfait. Mais lorsqu'on y vit à l'intérieur, on voit des choses.
On voit que c'est beaucoup plus dur.
C'est plus dur. Déjà, la température, il y a le changement. On n'a pas les mêmes règles au niveau éducation. Il y a des codes. Les codes civils, ce n'est pas la même chose. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a plein de paramètres qui freinent. Et déjà, on est stigmatisé en tant que noir. Je suis désolée de le dire. En tant que noir, on est dérangeant. Et pourtant, le noir est vachement discret. Lui, ce qu'il recherche, c'est vraiment avoir un lieu où il peut avancer tranquillement.
Dans sa vie.
Vie.
Bien sûr. Et oui. Est-ce que à côté de ça, vous avez eu d'autres cas de réfugiés qui étaient en grande difficulté aussi?
Les réfugiés qui s'approchent de moi, la difficulté, c'est les aider au niveau administratif.
Logement,
administratif et logement. On est une, c'est vrai que l'association, c'est une petite association. Je dis toujours une petite association, je vais toujours taper sur les doigts. Donc, ça demande, voilà, moi j'apprends. D'accord. J'apprends. Ils me permettent parce que, comme on dit, on apprend tous les jours. Ouais. Grâce à eux, j'apprends certaines manières d'approche, comment je peux les aider, comment je peux les accueillir, comment je peux les accompagner. Comme je vous ai dit, l'objectif de notre association, c'est accompagner les personnes qui sont en difficulté. De côtoyer l'administration française, leurs droits, connaître leurs droits, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et comment on peut les aider à avoir leur papier ou un logement ou un simple travail. Il y en a qui demandent un simple travail, qu'importe le travail qu'ils vont obtenir. Il y a des diplômés, il y a des étudiants qui sont diplômés, qui sont venus pour faire les études. Même les réfugiés, la plupart, il y en a qui sont diplômés.
Je pense que souvent, ce sont les diplômés qui s'y risquent parce qu'ils comptent sur leur diplôme pour être rapidement intégrés.
Oui. Malheureusement, c'est...
Alors que dans leur pays, on ne reconnaît pas ces diplômes, on ne leur donne pas un poste suffisamment, disons, prestigieux pour qu'ils puissent vraiment rester, quoi.
Vous savez, c'est un peu partout pareil quand on constate, vous savez, des fois, vous êtes diplômé, haut diplômé, mais si vous n'avez pas de relation...
Et oui,
vous savez qu'en Afrique,
un emploi, voilà, c'est toujours un
c'est relationnel.
Il n'y a pas qu'en Afrique.
Mais c'est pour ça que je me suis permis de souligner que c'est, voilà, c'est partout, voilà, c'est partout pareil. On se retrouve voilà, en grande difficulté si on n'a pas le bras long et voilà, des connaissances pour pouvoir exercer
notre... Alors, je répète l'information encore une fois, donc avec l'association des Ivoiriens et des Ivoiriennes de Montpellier. Un enfant, un sourire, le plaisir de frire, c'est le 2 décembre et ça se passe à la salle Jacques Ier d'Aragon qui se trouve au-delà du Lez, sur le du côté gauche des voies de tramway, à proximité de la, justement du tramway. On peut y arriver par la ligne 1, la ligne 3 et la ligne 4. Je voudrais également parler d'un autre événement qui va se produire et qui concerne aussi l'Afrique, et plus particulièrement les entrepreneurs africains qui se trouvent à Montpellier. C'est le 2 décembre également, de 14h à 17h, donc c'est un peu les mêmes heures, ça risque de se chevaucher un peu avec l'autre manifestation. C'est au Gazette Café, que maintenant tout le monde connaît un peu à Montpellier. Et le thème, c'est l'entrepreneuriat au féminin, une table ronde qui sera animée par Jérémy Ziri, entrepreneur, avec Séraphine Ouédraogo, donc une Burkina, du Burkina Faso, une esthéticienne, et l'entreprise Grainefille à Castelnau, et puis aussi Odile Corneille, qui a créé un atelier qui s'appelle Mosaïque Outre-mer, et enfin Dominique Lampla, qui est responsable relations humaines. Voilà. Donc ça, c'est au Gazette Café, le 2 décembre, de 14h à 15h.
Alors, je peux me permettre de rajouter, je pense que ceux qui sont sportifs et qui connaissent MTE, c'est bientôt la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit les plus grands joueurs pour la CAN. Donc, Montpellier...
Les joueurs de football.
Oui, oui, oui. Ouais. Donc, ce sera à partir du mois de janvier.
Ouais.
Donc, l'association ivoirienne et Yobi, la fédération de Yobi, on a décidé d'organiser la CAN à Montpellier, à notre manière.
Très bien.
Bon, la date n'est pas encore définie. Ce sera dans les périodes à partir du mois de janvier. Donc, pour vraiment animer et suivre cette CAN en direct sur cette place, à Yobi. Donc, venez nombreux. On vous donnera la date prochainement et les flyers.
On fera connaître ce projet et on diffusera vos flyers.
Voilà, j'ai mis la musique des Magie Systems. C'est eux qui étaient porteurs de raconter un petit peu la CAN et de faire une musique en lien.
Et comment vous allez organiser ça? Il y aura des petites équipes qui vont se constituer, qui se rencontreront sur le plan football ou bien...
Alors, ce sera une grande salle, donc la salle de Yobi, donc la plupart des personnes qui connaissent. On va mettre un grand écran pour au niveau pour que les gens puissent regarder.
Et vous allez visionner les matchs.
Visionner les matchs et à côté, on va faire un petit peu comme en Afrique. Il va y avoir des repas, il va y avoir le côté ambiance. On va mettre la musique, il va y avoir des intracts où il y aura des chants, des danses pour que les gens vivent vraiment la CAN à travers.
Ça va être formidable. Donc, alors, la salle Yobi, moi, je ne la connais pas. Il faudrait que vous précisiez peut-être où ça se trouve.
Alors, l'adresse exacte, je me fais tuer, c'est 50 bis Figuerolles, la rue Figuerolles.
Ah, c'est rue Figuerolles.
Voilà, c'est Figuerolles. Ouais. Donc, c'est à Yobi, à la fédération Yobi qui commence à être connue. Donc.
Bon, très bien, très bien. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci. Donc, on aura l'occasion de se revoir. Vous ne faites pas partie de la Maison des Territoires du Monde pour l'instant ?
Pour l'instant, comme vous le dites, non. Je suis à la Fédération Yobi, présidente de la Fédération Yobi. Donc,
On ne peut pas tout faire, hein, bien sûr. Au revoir.
Je vous remercie. Merci, FM+.